Méditation numéro 1. Peut-être que vous avez été maltraité dans votre vie. Peut-être qu'on vous a enlevé, qu'on vous a élevé tout croche, puis qu'on vous a enlevé peut-être vos droits. On vous a peut-être même écrasé en parole, etc. Mais Jésus a dit, « Je vous déclare que celui qui se met en colère contre son frère devrait être traduit en justice. Celui qui lui dit, « Espèce d'imbécile, mérite de passer devant la Cour suprême, et celui qui le traite d'insensé est bon pour aller en enfer. » Matthieu 5, verset 22. On voit que Jésus prend très clairement la défense de ceux qu'on maltraite verbalement. Jésus condamne ceux qui condamnent les autres. Dieu n'aime pas les gens qui se croient meilleurs que les autres, puis qui prennent plaisir à les envoyer en enfer. Selon Jésus-Christ, ceux qui envoient trop facilement les autres en enfer sont très susceptibles d'y aller eux-mêmes. L'apôtre Jacques a aussi écrit, « La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Elle enflamme le cours de la vie tout entière, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Fin de citation. Avec leur langue, il y a des gens qui peuvent en détruire d'autres, puis les marquer pour leur vie entière. Mais rassurez-vous tout de suite, Dieu est bon. Dieu est sensible. Dieu s'intéresse à nous autres. Dieu vous dira jamais rien pour vous faire sentir diminué ou humilié. Dieu nous aime. Dieu est amour. Puis l'amour ne fait point de mal au prochain, dit l'Écriture. Méditation numéro 2. Des fois, on a des problèmes à mener une vie droite et pure. Mais décourageons-nous pas. Dieu est compréhensif. Jésus a jamais péché, mais il sait parfaitement c'est quoi la faiblesse, par exemple. Alors, si vous avez dans votre cœur un authentique désir de plaire à Dieu, si vous faites des efforts honnêtes pour mener une vie plus droite, alors laissez-vous pas condamner par personne, puis laissez-vous pas culpabiliser par personne non plus. Dieu se décourage jamais de quelqu'un qui est honnête de cœur, même s'il est encore très imparfait. Si vous voulez servir Dieu, sachez qu'il y a une porte ouverte devant vous autres que personne ne peut fermer. Efforçons-nous, par amour pour lui, de vivre une vie droite, honnête et pure, le plus qu'on peut, en tout cas. Si on a de la misère, puis on va en avoir à faire ça, sachons que Dieu ne nous repoussera pas du revers de la main. N'ayez jamais peur de ça. Moi, ça fait 22 ans que j'ai pris l'engagement de vivre pour Dieu, puis ça fait 22 ans que j'ai de la misère. Ça fait que si tu avais voulu me rejeter, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Mais Jésus a dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Méditation numéro 3. Si les hommes vous ont condamné dans votre vie, sachez que vous ne serez pas condamné par Jésus-Christ. Écoutez pas ceux qui vous mettent des fardeaux sur le dos, puis qui vous donnent l'impression d'être des bons à rien. Personne n'est un bon à rien devant Dieu. Tous sont des créatures de Dieu à part entière. Puis chaque être humain a une place dans le plan de Dieu sur la terre. Trompez-vous pas. Ceux qui utilisent leur langue pour dévaloriser, puis caler les autres, sont rien que des méchants, qui iront rendre compte de leurs actes, puis de leurs paroles devant Dieu un jour. Alors commencez à lire les évangiles si ce n'est pas déjà fait. Puis laissez-vous parler par Jésus-Christ. Ayez pas peur de lui. Son évangile est une bonne nouvelle. Jésus-Christ est le meilleur ami que vous pourrez jamais avoir. Méditation numéro 4. En parlant de certains leaders religieux, Jésus a dit, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 4. Aujourd'hui, le monde est très suspect à propos des gens qui parlent de Dieu. Il y en a tellement qui ne savent plus à qui faire confiance à un moment donné. C'est bien naturel. Vous allez voir que c'est pas si difficile que ça de discerner à qui faire confiance. On est dans un pays libre, vous savez. Tout le monde a le droit de parler de la personne de Dieu à la manière dont il le conçoit. C'est bien correct que ce soit comme ça. Vivre dans un pays libre, ça veut dire que le monde a le droit de dire ce qu'il veut, puis que nous autres, on a le droit de les écouter ou de pas les écouter si on veut. Alors, la liberté, c'est dans les deux directions. Il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés, mais qui ont, qui n'ont pas une compréhension trop fidèle du caractère de Dieu. Ce sont des gens sévères, des fois, durs, puis autoritaires. Alors, vu qu'ils sont eux-mêmes durs et insensibles, autoritaires, c'est pour ça qu'ils nous présentent un Dieu dur et insensible, à leur propre image. Mais la vérité, c'est que Dieu nous aime. Ça ne changera jamais. Dieu veut qu'on le serve librement et volontairement. Alors, laissons-nous pas écraser sous les paroles autoritaires de tous ceux qui disent avoir le droit de nous conduire spirituellement. Peu importe la quantité d'études qu'ils peuvent avoir faites, les gens durs et sévères ne connaissent pas Dieu. C'est la stricte et pure vérité. Les évangiles nous enseignent que Jésus était doux et humble de cœur. Peut-être des fois il était dur en parole pour les gens qui étaient durs de cœur, mais dans son cœur, Jésus était toujours doux et humble de cœur. Les gens qui cherchaient Dieu se sentaient bien avec lui, c'est ça que je veux dire, parce qu'il les conduisait pas avec une baguette, mais avec la vérité puis avec l'amour. Jésus parlait pour sauver les gens, pas pour les esclavager. Alors, mes amis, suivons Jésus-Christ, qui est notre souverain pasteur au-dessus de tous les autres. Jésus-Christ est le seul pasteur que vous pouvez suivre aveuglément sans jamais avoir à le regretter un jour. Méditation numéro 5. Quelqu'un a écrit, « En vivant pour les bonnes choses de cette vie, on oublie facilement celles qui concernent l'âme. » Alors, quand on est trop bien sur la terre, mais c'est pas toujours bon pour nous autres. L'être humain est tellement égoïste que des fois, il y a juste le trouble dans sa vie qui va réussir à l'arrêter, de se regarder le nombril, puis de le porter, à lever ses yeux sur le monde spirituel, dans le monde spirituel, là où se trouve la vraie paix. Les déceptions sont souvent le langage de Dieu. Les déceptions de la vie sont très souvent permises et orchestrées par Dieu dans le seul but de briser notre indépendance de lui. Dieu sait bien que le vrai bonheur se trouve souvent pas dans l'accomplissement de notre propre volonté, mais dans la sienne à lui. Alors, si vous avez eu des déceptions dans votre vie, si vous vous êtes fait des beaux plans qui sont tombés à l'eau, arrêtez une petite minute, là, puis, parce que Dieu profite toujours de ces moments-là pour parler aux hommes. C'est pas Dieu qui cause la frustration, c'est notre égoïsme. Dieu profite seulement de l'occasion pour nous offrir des lois puis un mode de vie spirituel qui va nous procurer un bonheur beaucoup plus solide que celui qu'on avait essayé peut-être de se construire de nos propres mains. Alors, si nos plans, plus ou moins égoïstes, nous ont privés du bonheur terrestre, si on est des personnes déçues, mais sachons qu'on est alors les mieux placés pour connaître les joies de vivre dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, « Heureux êtes-vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés. » Méditation numéro 6. Moi, j'ai 40 ans. Mais quand je regarde mon passé, j'ai quasiment jamais réussi à avoir ce que je voulais, puis j'ai été malheureux bien plus souvent qu'autrement. Mais si j'avais la possibilité maintenant de voyager dans le temps et de changer toutes les choses que je voudrais, ben je pense honnêtement, en réfléchissant bien, là, que je changerais rien du tout. Parce que je réalise aujourd'hui que les choses même qui m'ont rendu malheureux puis qui m'ont fait souffrir ont contribué finalement à détacher mon cœur puis mes yeux de la terre, puis qui m'ont conduit à chercher Dieu, puis à donner un sens spirituel et réel à ma vie. L'homme est fait pour vivre en communion avec Dieu. Malheureusement, la plupart d'entre nous autres, on vit comme des véritables animaux des fois. Tout ce qui nous intéresse, c'est manger, boire, puis faire des petits. C'est vrai ou pas vrai? J'aime autant vous dire tout de suite que ceux qui n'ont pas plus de spiritualité que ça dans leur vie se condamnent eux-mêmes à jamais connaître le vrai bonheur. Et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu a dit dans sa parole, « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » L'apôtre Pierre a dit dans sa première épître au chapitre 3, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, il s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » De son côté, Jésus a dit, Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Méditation numéro 7. Peut-être que vous avez déjà entendu l'Évangile, que vous avez déjà la foi, que vous comprenez bien ce que Dieu veut de vous autres, mais si vous aviez l'habitude de mener une vie plus ou moins déréglée, ça se peut que vous vous sentiez un peu indigne de vous présenter devant Dieu quelquefois. C'est parfaitement normal. C'est bien comprenable, c'est bien normal de se sentir indigne devant Dieu. C'est plutôt le contraire qui serait pas normal. Se sentir saint devant Dieu, ben c'est pas normal ça. C'est bien plus pharisien, c'est une preuve d'orgueil que c'est une preuve de sainteté. Aller se présenter dans une église quand notre vie est pas en règle avec Dieu, on a l'impression de multiplier notre sentiment d'indignité. C'est pour ça qu'on préfère souvent pas aller à l'église du tout, parce qu'on se sent mal, un peu comme le publicain devant dans le temple. Si vous êtes de ceux-là, ben écoutez-moi bien, privez-vous plus, vous autres mêmes, de l'amour puis de la grâce de Dieu. Parce que c'est nous autres mêmes qui nous privent de Dieu, c'est pas Dieu qui se cache. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Alors, attendez pas d'être saint avant de venir à Jésus-Christ puis de venir à l'église. Venez repentant, puis venez comme vous êtes. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus-Christ nous offre la grâce de Dieu. Alors, pourquoi pas l'accepter? Pourquoi se sauver? Pourquoi aller se cacher? On sait que Dieu est saint, puis on sait qu'on est pécheur. Mais au lieu de se sauver d'un Dieu saint, on devrait plutôt bien s'en approcher, sachant que ce Dieu saint est aussi un Dieu aimant. Si Jésus-Christ lui-même a dit qu'il nous acceptait, pourquoi nous en faire de ce que les autres peuvent penser autour de nous autres, à l'Église? Privez-vous pas de venir à l'Église à cause des autres. Allez-y pour vous-même. L'Église tout entière est formée de gens de la même nature que nous autres, ayant eu ou ayant encore des difficultés avec les mêmes péchés que nous autres. On est tous des pécheurs. Il y en a seulement qui ne le savent pas encore peut-être, là, mais on en est tous. Alors, venez vous joindre à votre famille spirituelle, ne tardez pas. Laissez pas Dieu vous appeler sans répondre. Dieu a appelé des gens bien pires que nous autres dans l'Évangile. Alors, quand Jésus nous appelle, c'est le temps de nous lever. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Levez-vous puis acceptez cet amour gratuit-là. Méditation numéro 8. Vous êtes peut-être de ceux qui ont lu quelque chose ou entendu quelqu'un parler de Dieu dans le passé, puis que vous en avez été touché. Peut-être même que vous avez commencé à lire les Évangiles pour vous-même, puis à mettre un peu d'ordre dans votre vie. Mais vous avez manqué de persévérance peut-être après un certain temps, puis vos anciens amis, puis vos anciennes habitudes vous ont enveloppé à nouveau. Vous avez peut-être appris la leçon suivante à vos dépens. On peut être chrétien sans appartenir à une église, mais on peut difficilement persévérer dans la foi sans elle. Je suis un de ceux-là. Je crains pas de le dire, c'est ça qui m'est arrivé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Essayez pas de vivre au-dessus de ça, c'est un principe, puis il n'y a personne qui échappe à ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Sainte Bible est bien claire là-dessus. En Actes, chapitre 2, verset 40, l'apôtre Saint-Pierre a dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Autrement dit, détachez-vous de ceux qui vous induisent dans le mal, puis qui vous distraient de marcher fidèlement pour Dieu. Soyez pas surpris de devoir même vous séparer de plusieurs personnes qui vont même à l'église aussi. Quelqu'un a déjà dit que d'aller à l'église, ça fait pas nous autres des chrétiens, pas plus que de nous asseoir devant un piano, fait de nous autres des pianistes. L'apôtre Paul a écrit dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le même apôtre Paul a encore donné ce conseil à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire qu'il faut choisir ses amis, même à l'intérieur de l'Église. Parce que même dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas de bonne compagnie. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Il y a autant de gens qui ne sont pas de bonne compagnie dans l'Église qu'il y en a qui ne sont pas de bonne compagnie à l'extérieur de l'Église, en dehors. L'être humain est une créature de société, c'est-à-dire une créature dont le comportement puis la conduite est influencée et tempérée par les autres personnes dont il s'entoure. Je répète que c'est inutile de penser que vous allez pouvoir vivre votre foi longtemps si vous restez tout seul de votre côté, ou avec vos anciens amis qui sont contre votre nouvelle façon de vivre. Vous avez besoin de vous joindre à une église, puis une église où les conducteurs spirituels croient à la sanctification, à la sainteté, puis des conducteurs qui vont vous donner un bon enseignement dans ce sens-là. Ça va vous aider à persévérer dans la bonne résolution que vous avez prise pour Dieu. Selon le plan de Dieu, l'église est appelée à constituer un monde saint, au milieu d'un monde souillé par le péché. De toute façon, quand on y va pour les bonnes raisons, l'Église place le croyant dans un environnement qui l'aide à vivre selon la volonté de Dieu. Méditation numéro 9. Selon les Écritures, un conducteur spirituel qui ne prêche pas aux hommes d'abandonner leur péché est un conducteur infidèle. Trompez-vous pas là-dessus, Dieu ne peut pas demeurer dans une personne qui aime pratiquer ses péchés. Le renoncement de cœur au péché est essentiel au salut de notre âme. On n'est pas sauvé parce qu'on va à l'Église, mais parce qu'on a renoncé à nos péchés. C'est ça le vrai christianisme. Une personne qui pratique l'ivrognerie, l'adultère, puis qui parle des autres à cœur de semaine, n'aura pas son âme sauvée, même si elle aura été à l'Église tous les jours de sa vie, puis qu'elle observe toutes les fêtes religieuses imaginables. La foi sans la repentance est morte, elle ne mène à rien. L'apôtre Paul, écrivant aux croyants de Rome, a dit « Demeurerions-nous dans le péché? Loin de là. » Ça se trouvait dans son Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 1. Alors, Dieu n'exige pas la perfection, c'est bien sûr. Il nous demande seulement le minimum, c'est-à-dire de fournir des efforts honnêtes pour devenir de meilleures personnes. L'apôtre Saint Jean a dit dans sa première épître, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Jésus-Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. » Pour finir, laissez-moi seulement vous citer cette parole de Jésus que j'aime beaucoup, qui se trouve dans l'épître de Jean, chapitre 14, pas l'épître, je m'excuse, l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 21-23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Bon, à partir de ce point-ci, je pense que je vais parler des béatitudes que Jésus a prononcées dans son sermon sur la montagne. On va les prendre une à une, pour en découvrir le sens ensemble. Ce qui constitue la méditation numéro 10 maintenant. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Bon, les pauvres en esprit, c'est les gens de l'époque qui aimaient Dieu, qui avaient faim et soif de s'approcher davantage de lui, mais qui ne savaient simplement pas comment le faire. L'homme a besoin de se sentir satisfait spirituellement. Jésus-Christ est bien plus qu'un bon exemple moral à suivre. Jésus s'est pas contenté de nous dire ce qu'il fallait faire ou pas faire, mais aussi, ce qui est extrêmement important, il est celui qui a le pouvoir de nous délivrer de nos mauvaises habitudes de vie, puis qui nous donne la force et la grâce de faire maintenant la volonté de Dieu. Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, je ne veux pas nécessairement attirer votre attention sur les langues de feu, mais surtout sur le fait qu'il est dit que les 120 croyants qu'il y avait là, réunis ensemble, ont été remplis du Saint-Esprit. En Actes, chapitre 2, l'apôtre Pierre a dit, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Saint Jean a écrit de son côté, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, c'est-à-dire la capacité, de devenir enfants de Dieu. » C'est-à-dire de vraiment changer de mode de vie, d'abandonner tout ce qui nous tient liés, comme l'alcool, la drogue, n'importe quoi. Alors, en résumé, on voit que c'est pas l'appartenance à l'Église qui remplit le cœur d'un croyant du Saint-Esprit automatiquement. Il y a seulement l'Esprit de Jésus lui-même qui peut remplir une âme humaine, puis lui donner ce sentiment de plénitude spirituelle qu'il a tant besoin. Parce qu'il faut comprendre que c'est une chose d'avoir reçu le Saint-Esprit à notre baptême, mais c'en est une autre d'en être rempli, par exemple, dans notre vie de tous les jours, maintenant qu'on est adulte. Alors, si on se sent riche en esprit, on n'est pas dans l'état que Jésus-Christ nous veut. Il y a seulement les ignorants et les orgueilleux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de rien de plus dans leur expérience religieuse. Maintenant, une boîte remplie de poivre ne peut pas être remplie de sel. Comprenez ce que je veux dire. Mais heureux les pauvres en esprit, parce que la plénitude du royaume de Dieu tout entier s'ouvre pour eux autres. Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels, qui sentent leur pauvreté spirituelle. C'est ceux-là que Dieu veut remplir de son esprit. Si vous êtes déjà croyant, je vous encourage à lâcher les briques, puis à poursuivre votre cheminement spirituel, parce que peut-être que moi, je sais que personnellement, pendant des années, j'ai eu les deux pieds sur le break. Je pensais que j'étais correct de même, j'avais ma religion, puis c'est tout. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment vide à un moment donné. C'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir autre chose, puis aller plus loin dans le Seigneur. Contentons-nous pas seulement de croire en Jésus-Christ, mais cherchons de tout notre cœur à être remplis de son esprit de plus en plus. En Actes, chapitre 2, l'apôtre Pierre a dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est une étape humiliante à faire que d'admettre nos fautes, nos manquements, même nos péchés. C'en est une encore plus humiliante de les confesser à un autre être humain. Mais il n'y a rien qui peut nous remplir autant du Saint-Esprit que de faire ça. Méditation numéro 11. Jésus m'a dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Ici, Jésus parle maintenant des pauvres, non spirituellement, mais financièrement. L'apôtre Jacques a aussi écrit, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Alors, un chrétien est donc le citoyen de deux mondes, premièrement. Son corps vit dans le monde naturel, puis son esprit vit dans le monde spirituel. Puis il n'a même pas besoin de drogue pour faire ça. L'apôtre Paul a écrit, « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alors, on peut être pauvre. Oui, c'est triste d'être pauvre. Moi, j'ai pas tout ce que je veux. Je mentirais si je dirais que je suis bien nanti. Je le suis pas pantoute. Je mentirais aussi si je dirais que je suis vraiment pauvre. Je suis pas vraiment pauvre. J'ai exactement ce qu'il me faut. On a à manger sur la table. J'ai un toit sur la tête. J'ai pas encore d'auto. Mais je peux dire qu'au moins je mange. Puis j'ai un chez nous. J'ai une belle petite famille. Je remercie Dieu pour ça. Je me considère pas comme pauvre, mais je suis loin d'être riche aussi. Puis je vous dire que où j'ai des besoins financiers, où j'ai des besoins matériels, je les comble avec la richesse spirituelle qui est Jésus-Christ. Puis je suis un homme comblé. Je me considère comme un homme riche intérieurement à cause de Jésus-Christ, à cause de toutes les richesses spirituelles qu'il m'a communiquées. Je suis un homme heureux, même si j'ai pas d'argent dans mon portefeuille la plupart du temps. Je suis un homme heureux. Alors, je répète la béatitude que Jésus nous a dit. Heureux vous qui êtes pauvres. Car les richesses de Dieu sont aux pauvres. Méditation numéro 12. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Dieu est prêt à vous servir de père et de guide dans votre vie, puis vous donner dans son royaume 1000 fois le bonheur puis la joie que vous avez peut-être pas eu quand vous étiez sur la terre. Dieu est un Dieu de promesses et de fidélité. C'est une chose de croire en Jésus-Christ, mais c'est une autre chose d'être son disciple à chaque heure du jour et de la nuit. Devenons disciples de Jésus-Christ, puis on sera jamais plus désespéré, jamais plus seul. Dieu ne ment jamais, puis Jésus-Christ non plus. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors Jésus était très honnête avec les gens. C'était pas le genre à leur faire des promesses électorales, comme on dit. Quand il promettait quelque chose, c'est parce que c'était vrai. Il y a des grandes consolations célestes qui attendent ceux qui auront vraiment appartenu à Jésus-Christ sur la terre. Devenez un des fidèles disciples, de ses fidèles disciples, puis vous serez plus jamais dans le désespoir. Vous allez avoir des périodes d'abattement comme tout le monde, mais vous serez jamais désespéré, par exemple. Le désespoir, c'est seulement pour ceux qui n'ont aucune espérance. Un chrétien peut être abattu, mais jamais sans espérance. L'apôtre Paul a écrit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Il y a toujours de l'espérance pour le chrétien. Si c'est pas dans ce monde-ci, ça va être dans l'autre. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a toujours des consolations pour le croyant dans l'affliction. L'apôtre Pierre a écrit dans sa première épître, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Méditation numéro 13. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. En d'autres mots, heureux les doux. Heureux ceux dont on abuse de la bonté. Heureux ceux qui se font arracher leurs droits. C'est ça que ça veut dire, quelqu'un de débonnaire. Sur la terre, tout le monde mange la laine sur le dos de tout le monde, ou presque. C'est un véritable mode de vie pour la plupart des êtres humains. Mais c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est bien de le faire. C'est pour ça que si on fait pas attention, même si on est croyant, ça devient très facile de nous conduire comme des incroyants. Dieu a un penchant pour les pauvres, les doux, les faibles, puis ceux qu'on méprise. Si vous êtes de ceux qui avaient été abusés par les autres, puis malmenés dans votre vie, vous avez le choix, vous endurcir, puis devenir pareil que ceux qui vous ont malmené injustement, ou apprendre à remettre toutes vos causes entre les mains de Dieu. Moi, j'ai été de ceux qui ont beaucoup été maltraités injustement dans leur jeunesse. Pendant longtemps, c'est la frustration, la haine puis la vengeance qui me faisaient respirer pendant de nombreuses années. J'ai été rongé par la haine puis par la rancune pendant je ne sais plus combien de temps. Cette haine-là m'avait tout détruit intérieurement. Je me sentais plus comme une bête que comme un être humain. J'exagère pas, là. J'en étais même venu à méditer le meurtre. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Ou plutôt, c'est lui qui m'a rencontré, qui est venu à ma rencontre. Je l'ai aimé tout de suite parce que c'est à peu près la seule personne sur la terre qui m'avait pas fait de mal. Mais je savais que l'Esprit de Jésus pouvait pas devenir demeurer en moi si je renonçais pas à la haine puis à mes plans de vengeance. Alors j'ai bien réfléchi, puis j'ai décidé que de pas me venger moi-même, puis de remettre tout jugement à Dieu, de m'en remettre à la justice de Dieu et au temps de Dieu. Après 22 ans de vie chrétienne à partir de ce moment-là, je regarde aujourd'hui tous ceux qui m'ont fait du mal dans le passé, puis presque sans exception, il leur est arrivé quelque chose de pire que ce qu'ils m'ont fait subir. Je me réjouis pas de leur malheur, mais je suis satisfait, par exemple, du jugement de Dieu qui a simplement permis à la vie de leur enseigner ce que c'est que de vivre dans l'amertume de la faiblesse. Aujourd'hui, je regarde ma vie et je suis content de mon choix. J'aime mieux être de ceux qui sont maltraités que de ceux qui maltraitent les autres. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Je suis content de ce choix-là. Il y a vraiment de la paix et de la sérénité à imiter le caractère de Jésus-Christ. C'est lui qui nous en donne la force, hein? C'est pas nous autres. Méditation numéro 14. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous êtes peut-être méprisés dans ce monde-ci, mais si vous êtes de vrais croyants, vous êtes honorés dans le royaume de Dieu, soyez certains de ça. Les gens honorés sur la terre sont des gens inconnus au ciel, très souvent. Puis les gens méprisés sur la terre sont des gens célèbres au ciel. Dieu juge pas comme les hommes jugent. Ceux qui tiennent le fouet de ce côté-ci tiendront plus rien de l'autre côté de la tombe. Puis ceux qui se courbaient pour qu'on leur passe sur le dos ici auront plus jamais à se courber d'humiliation dans le royaume de Dieu. Dieu va leur redonner une dignité éternelle. Jésus a dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors si on veut hériter la justice de Dieu dans l'éternité, soyons disciples de Jésus-Christ maintenant. Je répète qu'il y a une grande différence entre ceux qui pratiquent une religion de fin de semaine et un croyant à plein temps. Puis même si on vous humilie encore sur la terre en attendant, mais dans votre cœur, vous saurez que vous partagez déjà la gloire de Jésus-Christ, l'honneur de Jésus-Christ. Les gens ne savent pas, mais en humiliant un chrétien, même le plus petit des chrétiens, même un chrétien protestant, ils sont en train d'humilier un prince en réalité. Jésus-Christ est le roi des rois, dit l'Écriture. Alors tous ceux qui sont en lui, par la foi, sont tous des princes et des princesses, peu importe leur statut social, peu importe l'épaisseur de leur portefeuille, tous les disciples de Jésus-Christ sont des princes et des princesses aux yeux de Dieu, puis en seront réellement un jour. Au jour du jugement, Dieu révélera votre vraie nature à ceux qui vous méprisaient. Il est écrit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » L'apôtre Paul a encore écrit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Avant de lire ce texte, je veux dire quelque chose. Même des gens dans l'Église autour de nous ne comprennent pas qu'est-ce que c'est qu'être vraiment croyant. Même dans l'Église, on va trouver des gens qui nous ridiculisent parce qu'on lit les Évangiles, parce qu'on essaie d'être honnête, parce qu'on veut pas mentir, parce qu'on veut payer nos impôts, parce qu'on veut pas voler, parce qu'on veut pas tricher, parce qu'on veut pas tromper notre conjoint, parce qu'on veut pas s'enivrer. Des gens, même dans l'Église, autour de nous, ne comprendront pas ce qu'on essaie de faire. Vont trouver qu'on est fanatique, qu'on exagère. Mais non, on sera simplement des vrais chrétiens. Je veux citer le verset que je voulais citer. L'apôtre Paul a écrit, « Notre cité à nous, les vrais croyants, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. En l'Épître aux Romains, au chapitre 8 maintenant, l'apôtre Paul a encore écrit, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Méditation numéro 15. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Devenir chrétien, c'est devenir miséricordieux. Il n'y aura pas de place dans le royaume de Dieu pour les gens sévères, qui auront pris plaisir à condamner leurs prochains sur la terre, ou à les faire marcher à la baguette, comme on dit. Si vous êtes de ceux qu'on a élevés à coups de pied derrière, alors vous connaissez mieux que personne la valeur de la miséricorde. La sévérité, c'est presque un mode de vie dans le monde où on est aujourd'hui. C'est malheureusement aussi un mode de vie dans l'Église, quelquefois également. Dans beaucoup de petites églises protestantes, il existe des pasteurs très sévères. Il en existe aussi de très miséricordieux. On remercie Dieu pour ça. On se souvient, s'il y a seulement une ou deux générations, dans l'Église, il y avait beaucoup de curés qui parlaient seulement de l'enfer, puis qui parlaient beaucoup avec un ton sévère. Mais la vraie, heureusement, les temps ont changé. Mais la vraie vie chrétienne est une vie de miséricorde qu'on exerce envers les erreurs des autres, puis de miséricorde qu'on reçoit de Dieu pour les nôtres. L'exercice de la miséricorde envers notre prochain doit pas être envisagé comme un fardeau à porter, mais plutôt comme une recette de bonheur, une recette de sérénité et de paix intérieure pour nous-mêmes. Vous seriez surpris de la joie intérieure qu'on peut tirer à faire seulement du bien à un chien ou à un chat. La bonté, c'est une condition essentielle au bonheur. Puis ça, ben, c'est Jésus-Christ qui nous a appris ça. La miséricorde, c'est pas seulement une vertu qui est réservée à Dieu seul. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a pris la résolution de vivre selon la même miséricorde que son Père, Dieu. L'exercice de la miséricorde est essentiel au salut de notre âme. Les sans-cœur n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y aura personne, il n'y aura aucun sans-cœur dans le ciel, soyez assurés de ça. Alors, si ce n'est pas déjà fait, pour notre propre salut, puis pour notre propre bonheur, prenons la décision aujourd'hui d'introduire la miséricorde divine dans notre façon de vivre. Méditation numéro 16. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un jour, il y a un athée qui affirmait à un chrétien que Dieu n'existait pas. Le croyant lui a fait la réponse suivante. « Cher monsieur, Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors, quel est le degré de pureté de votre cœur pour affirmer que Dieu n'existe pas? Autrement dit, est-ce que ta pureté de cœur te permet de voir dans le ciel pour voir si Dieu existe ou non? Alors, si vous êtes de ceux qui doutez de l'existence de Dieu, demandez-vous si ce ne serait pas votre propre cœur qui manquerait de pureté. Un cœur pur agit comme un miroir dans lequel on peut voir le reflet du visage de Dieu. Un cœur de péché est un miroir recouvert de crasse à travers lequel on ne voit rien du tout. Au travers Dieu ne peut pas mettre son visage. Il ne peut pas être vu. Mais il y a aussi ceux qui doutent de l'existence de Dieu pour des raisons honnêtes. Alors à ceux-là, je vous lance un défi. Si vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, vivez vraiment comme s'il n'existait pas. Puis mettez-vous à faire toutes sortes de bonnes actions à sa place. Adoptez le même caractère pur que le Dieu de Jésus-Christ dans lequel vous ne croyez pas. Puis si vous êtes fidèle à pratiquer le bien avec une bonne volonté, moi je pense qu'il ne se passera pas longtemps avant que vous reconnaîtriez dans votre esprit, dans votre propre cœur, le Dieu. Vous allez le rencontrer, ce Dieu-là, dans lequel vous ne croyiez pas avant. Méditation numéro 17. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tous les êtres humains ont souffert un jour ou l'autre d'un manque de reconnaissance. On a tous passé par là. On sait comment ça fait mal au cœur de voir quelqu'un à côté de nous autres recevoir une promotion ou des honneurs ou des compliments, alors qu'on a nettement le sentiment de mériter tout ça plus que lui. Hein? on a des espèces de sentiments de tristesse, d'amertume, de frustration qui montent en dedans. Puis là, on a envie de se mettre en colère puis de réclamer l'honneur qu'on nous doit ou le poste qu'on nous doit. Mais vous savez aussi bien que moi qu'en agissant comme ça, on fait rien que multiplier notre souffrance intérieure. Alors pour l'amour de la paix, de notre propre paix intérieure, en renonçant à nous battre et en prenant l'exemple et volontairement, humblement, la dernière place, l'exemple de Jésus-Christ lui-même, comme notre maître l'a fait, eh bien on va être bien plus heureux dans notre peau. En fait, Jésus-Christ nous dit que la reconnaissance qu'on n'aura pas eue des hommes, mais on va la recevoir au centuple devant Dieu, dans le ciel un jour. Alors devant des situations comme ça, quand on rencontre un bouchon dans notre vie, il faut apprendre à lâcher prise. Accepter Jésus-Christ veut souvent dire accepter la dernière place parmi les hommes. Mais l'humilité chrétienne est une vertu qui va vous apporter de grandes récompenses. Peu à peu, tout au long de notre cheminement, on va réaliser de plus en plus que les choses qui nous paraissaient les plus répulsives dans la vie chrétienne, comme présenter l'autre joue, faire 2 000 à celui qui nous en demande un, prêter de l'argent à celui qui est dans le besoin. Bon, toutes ces choses-là, c'est répulsif à notre nature égoïste. Ce sont celles-là qui sont de nature à nous procurer le plus de sérénité, puis le plus de paix intérieure, puis le plus de bonheur. Je répète la béatitude de Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix. Il y a vraiment une bénédiction à être une personne de paix. Méditation numéro 18. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin et sait que vous en avez besoin. Personnellement, quand j'avais 18 ans, j'étais très angoissé en pensant à mon avenir. Je savais pas ce que j'allais faire plus tard dans la vie, puis ça me rendait malade d'inquiétude. Aujourd'hui, ça fait 23 ou 24 ans de ça. Puis, j'y suis arrivé à plus tard. Je sais toujours pas quoi je vais faire. Du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce que va être fait le jour de demain. Pourquoi s'inquiéter? L'homme est une véritable machine à inquiétude. Quelqu'un a dit que la vie, c'est le temps qui s'écoule pendant que tu te demandes ce que tu vas faire. Autrement dit, l'inquiétude est seulement du temps perdu. Moi, il y a quelque chose que Jésus-Christ m'a appris, c'est l'importance de bien vivre aujourd'hui. Hier, c'est passé, puis demain, c'est pas encore arrivé. Il n'y a rien que le présent que Dieu a mis dans nos mains. Il est totalement inutile de vous demander ce que vous allez être plus tard, parce que vous allez probablement le devenir tout seul de toute façon pareil. Tout le monde a des aptitudes, des dons, puis des intérêts. Ce qui arrive, c'est que ces choses-là, ça se développe, pas toutes au même âge chez tout le monde. La vérité, c'est que si vous êtes fait pour faire quelque chose, bien, vous allez vous réveiller en train de le faire probablement à un moment donné. Si vous ne savez pas quel métier choisir, là, ben, cassez-vous pas la tête. Puis si malgré tous vos efforts, vous ne pouvez pas trouver votre place dans la société, ben, c'est probablement parce que je trouve dans le royaume de Dieu. Peut-être que Dieu vous appelle à une vie de consacré. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a des gens qui ont déjà trouvé leur place dans le monde, mais qui sont pas satisfaits du tout intérieurement. Ils sont mal dans leur peau. Ils ont un vide dans le cœur qu'ils sentent bien. Ils sont conscients qu'il leur manque quelque chose, mais ils savent pas quoi. S'il y en a comme ça qui m'écoutent, eh bien, je vais vous le dire, ce que vous avez. C'est Dieu qui vous appelle. C'est parce que vous avez des besoins spirituels à combler, qui le sont pas. Mettez-vous sur vos genoux exactement tout de suite, puis donnez votre vie à Dieu pour le meilleur et pour le pire. Engagez-vous à suivre Jésus-Christ, lisez les évangiles, étudiez la Sainte Bible, en vous attendant à ce que l'Esprit de Jésus vous inspire et vous conduise dans toute la vérité. Soyez patient, avancez à petits pas de bébé, puis je vous garantis que votre vie va trouver son vrai sens, puis ce sera pas long. Tous les poissons savent reconnaître l'eau quand ils tombent dedans, puis tous les élus de Dieu, tous les enfants de Dieu, savent reconnaître le bonheur quand ils tombent en Dieu. L'Écriture dit « Rejetons donc le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Méditation numéro 19. Nous approcher de Dieu puis commencer à lire les Évangiles pour nous-mêmes, bien, ça a pour effet de nous rendre mal à l'aise au début. C'est parfaitement normal. Ça fait partie de l'œuvre sanctifiante de Dieu. Dieu est un feu saint. Puis il se sert de ça pour consumer du péché et du mal en nous autres. Pour un jeune croyant, demeurer dans une atmosphère sainte le sanctifie puis encourage sa piété. La crainte puis l'appréhension qu'on éprouve à ouvrir notre Évangile puis à la lire est une peur inspirée par l'ennemi de nos âmes, par l'adversaire de Dieu qui désire nous éloigner du troupeau pour mieux nous dévorer. J'ai connu des gens qui pensaient être des chrétiens très forts, puis ils ont tous immanquablement fini par retourner à leur ancienne façon de vivre qui était mauvaise, leur ancien mode de vie déréglé. Alors même si on a eu une expérience très puissante avec l'Esprit de Dieu, on n'est jamais à l'abri du refroidissement spirituel. Comme les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, pas de compagnie du tout, bien, ça nous fait pas avancer du tout. Si la tiédeur de notre dévotion envers les choses spirituelles s'est installée dans notre vie, c'est parce qu'on s'est éloigné de Jésus-Christ, de son Évangile et de son Église. Reprenons notre Évangile. Revenons à la compagnie de Jésus-Christ, puis son Esprit va revenir dans notre compagnie aussi. L'apôtre Jacques a écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Méditation numéro 20. Dans la vie de tout croyant doit y avoir un cheminement spirituel. La foi d'un croyant doit être comme le soleil dont l'éclat grandit toujours, du matin jusqu'au midi. Un croyant qui regarde en arrière de lui puis qui voit pas qu'il a vraiment grandi dans la foi est dans un état anormal. Une foi qui ne grandit pas est une foi mouante. Pour que notre foi soit grandissante, il est extrêmement important de faire trois choses. Premièrement, de nous nourrir à tous les jours des Évangiles, le matin avant de déjeuner ou le soir dans notre lit avant de nous endormir. Deuxièmement, de nous garder quelques minutes de prière personnelle. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, de nous joindre à une église de façon régulière. Si on fait ces trois simples choses-là, on va développer une solide foi chrétienne. Mais si on nourrit pas notre nature spirituelle, elle va mourir très rapidement. On va avoir l'impression de courir sur place, on va se mettre à l'église par routine, puis tout va devenir plate. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, la routine traditionnelle du dimanche matin ne vous satisfera pas. Si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur, vous devez le suivre de tout votre cœur, à tous les jours. Le faire entrer dans notre cœur, dans vos pensées, dans vos projets, dans vos choix, puis dans vos décisions de tous les jours. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ a choisi les apôtres qu'il a choisis? C'est parce que c'était des hommes qui avaient à cœur de le suivre de très près. C'est pour ça qu'il a été jugé digne, qu'ils ont été jugés dignes, de partager les secrets et la puissance du royaume de Dieu. Puis trompons-nous pas, Jésus-Christ espère ardemment, puis attend patiemment de trouver encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont avoir soif de vivre intimement avec lui, comme les anciens disciples l'ont fait, puis de partager avec eux autres son Saint-Esprit, ses secrets, ses vertus et sa puissance. Méditation numéro 22. Attendez pas de vous sentir saint avant d'aller à l'église. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas à l'église à cause de ça. Venez comme vous êtes. Venez avec votre bonne volonté. Venez sans crainte d'être jugé. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, nous dit l'Évangile. Le peuple de Dieu est formé de gens de la même nature que toutes nous autres, ayant eu ou ayant encore les mêmes difficultés que nous autres. Privez-vous plus vous-même du soutien, de l'encouragement, puis de la grâce de Dieu, en tentant de vivre votre foi en étant tout seul de votre côté. Venez vous joindre à votre famille spirituelle sans tarder. Quand Jésus nous appelle, ben, il faut se lever. C'est peut-être dur de prendre cette décision-là puis de faire les premiers pas, mais vous allez vite oublier vos difficultés quand vous allez goûter la joie que ça va vous avoir procuré de l'avoir fait. Ça paraît toujours plus dur que c'est d'obéir à Dieu. L'ennemi nous inspire toutes sortes de craintes. Il n'y a rien au monde qui peut empêcher un homme ou une femme d'obéir à Dieu quand il veut vraiment le faire. Je vous répète encore que si vous avez commencé à lire les évangiles, eh bien, ne risquez pas de perdre la foi que vous avez en restant tout seul de votre bord. Moi, ça fait présentement 21 ou 22 ans que j'ai décidé de vivre ma foi chrétienne. Puis pendant tout ce temps, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été capable de demeurer parfaitement fidèle au Seigneur sans aller à l'église régulièrement. Méditation numéro 22. La vie, là, c'est plus que manger, travailler puis mourir. La vie, c'est une sorte d'épreuve spirituelle. Dieu nous a mis sur la terre pour nous donner l'opportunité de prouver si on veut être bon ou si on veut être méchant. Pour voir si on va accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie ou si on ne l'acceptera pas. La vie, c'est une période de réflexion que Dieu accorde à l'homme à ce sujet-là. L'homme est en train de se juger lui-même par la vie qu'il mène, par les choix qu'il fait à tous les jours. On s'en aperçoit peut-être pas, mais nos moindres gestes, nos moindres paroles, nos moindres pensées et décisions révèlent notre vraie nature, à savoir si on est des enfants de Dieu ou des enfants de rébellion contre lui. On est tous en train de prendre une décision à propos de Dieu sans le savoir. Dieu est témoin de toute notre vie. Dieu pèse tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Dieu pèse tout ça. C'est pour ça que le livre des Actes des apôtres apporte ceci. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournerons vers les païens. » Alors, au jour du grand jugement, la décision de Dieu va entièrement dépendre de la nôtre sur la terre. Puis ça, je trouve ça rassurant dans un sens, parce qu'au lieu de passer notre vie entière à nous demander si Dieu va nous accepter dans son paradis ou non, on sait maintenant que la direction que notre âme va prendre après notre mort est entièrement entre nos mains dès maintenant. En réalité, ce qu'on fait maintenant de Jésus-Christ détermine exactement ce qu'on fait de notre propre âme. Méditation numéro 23. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'âme sauvée? Ça, c'est une question qui a souvent été demandée, elle a même été demandée à Jésus à plusieurs reprises dans les évangiles. Bon, premièrement, on n'est pas tous méchants, mais on est tous mauvais, par exemple. Il n'y a personne, un tant soit peu honnête, qui peut dire le contraire. Tous les êtres humains sont des pécheurs. On ne commet pas tous de graves péchés, mais on est tous des faiseurs de péchés à notre façon. On a tous des imperfections de caractère. On est tous plus ou moins sales devant Dieu, qui est si saint. Puis on a tous besoin d'un sauveur. Le passé peut pas être effacé, mais il peut être racheté, par exemple. On peut nous autres même être rachetés de nos péchés, gratuitement, par la mort du Christ. Ce qui nous fait, c'est avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire, c'est avoir une foi confiante et totale en Jésus-Christ. Renoncer sincèrement à nos méchantes et à nos mauvaises habitudes. Puis prendre l'engagement de vivre selon l'Évangile au meilleur de nos capacités. Encore une fois, Dieu ne nous demande pas la perfection et ne nous demande pas l'impossible, mais seulement de la bonne volonté et des efforts honnêtes. Mais il y en a qui vont peut-être dire, « Bon, c'est au-dessus de mes forces d'être disciple de Jésus-Christ, j'arriverai jamais à suivre Jésus-Christ. » Bon, votre crainte est bien humaine, puis rassurez-vous. Tous les vrais croyants qui ont jamais existé dans le monde ont tous suivi Jésus-Christ en boitant. On n'est pas Jésus-Christ. On est seulement ses disciples. Un chrétien, c'est un boiteux qui a la grâce. C'est un boiteux qui a la foi. C'est ça que c'est un chrétien. C'est pas un ange sur la terre. C'est pas un homme parfait. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande seulement de le suivre de tout notre cœur. Puis de fournir des efforts honnêtes pour mener une vie meilleure. Même ses propres disciples se demandaient comment ils pourraient arriver à suivre Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, ses disciples lui ont demandé « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alors la vraie vie chrétienne, c'est une vie qui se vit par la foi, puis avec le cœur. Regardez pas trop loin en avant. Vivez un jour à la fois. Vivez par la foi, un jour à la fois. Si vous trébuchez, faites comme moi, relevez-vous. Laissons-nous laver par le sang de notre Sauveur à chaque fois qu'on trébuche. Classons nos fautes parmi les expériences instructives, puis continuons à faire de notre mieux. C'est ça que Dieu veut. Le psaume 37, versets 23 et 24 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Méditation numéro 24. Jésus a dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Bon, Jésus-Christ est venu comme une lumière d'espérance dans le monde, pour nous faire sortir des ténèbres du désespoir. Moi, avant de connaître Jésus-Christ, j'étais arrivé à un point de désespoir dans ma vie. J'en étais arrivé à presque toujours vivre avec des pensées de suicide, parce que mes problèmes semblaient avoir absolument aucune solution. Quand on est arrivé à regarder la mort comme la seule solution, je peux vous dire qu'on n'est pas tellement bien dans notre peau. J'en sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est que de plus avoir la force de travailler, puis de plus avoir la force de rien faire, de passer toutes ses journées assis dans une chaise à penser à ses problèmes, à faire une dépression. Je passais tellement de temps à penser à mes problèmes que j'étais littéralement épuisé, arrivé seulement à la moitié de la journée. Ça me fatiguait 10 fois plus que travailler. Des jours, ça me demandait des efforts surhumains juste pour me faire la barbe ou pour me passer un coup de brosse dans les cheveux. C'est pas des blagues. En fait, la plupart du temps, je le faisais pas. J'aimais mieux marcher dans les cimetières que de marcher dans la rue. C'est ce qu'on appelle vivre dans les ténèbres, mes amis, dans les ténèbres du désespoir. Mais quand j'ai finalement décidé de croire en Jésus-Christ, à manger sa chair et à boire son sang, comme dit le Seigneur, les forces me sont revenues. Oui, mangez Jésus-Christ, les forces vont vous revenir. Jésus a dit avec raison que sa chair était vraiment une nourriture et que son sang était vraiment un breuvage. C'est le prophète Jérémie qui disait de Dieu en priant « J'ai saisi tes paroles et je les ai dévorées. » Un jour, comme je traversais un cimetière pour revenir chez nous, puisque j'avais des idées de suicide, il y a une petite voix intérieure qui m'a dit « Tant qu'à jeter ta vie dans les poubelles, pourquoi tu ne me la donnes pas ?» C'est exactement ce que j'ai fait à partir de ce jour-là. J'ai finalement donné ma vie à Jésus-Christ pour le meilleur et pour le pire. J'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, mon seul but dans la vie serait de me nourrir de son enseignement et d'en nourrir les autres. J'ai su que la direction de ma vie serait maintenant de découvrir et de faire la volonté de Dieu pour moi, puis simplement faire confiance à sa providence tous les jours de ma vie, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme a dit l'apôtre Paul. J'ai su que ma vie servirait à éclairer quelqu'un d'autre, avec la lumière de Jésus-Christ, non la mienne.